Bonsoir à toutes et à tous. Alors, il est 18h, c'est l'heure de notre émission Une heure en Palestine. Nous sommes avec vous et en Palestine sur Radio Galère 88.4, comme tous les mercredis de 18h à 19h. Ce soir, c'est BDS Provence, le groupe local de la campagne BDS France, qui propose cette émission. Un petit rappel vite fait, BDS Provence a une page Facebook intitulée BDS Provence, sur laquelle vous trouvez des informations quotidiennes, des articles de fond. Vous pouvez aussi nous laisser un message en privé si vous avez des questions, si vous désirez participer à nos actions. La campagne BDS France a un site, c'est www.bdsfrance.org, avec de nombreuses informations nationales et internationales. Et nous avons aussi une boîte mail, bdsprovence@orange.fr. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une camarade de lutte, c'est Lamia. Bonsoir Lamia.
Bonsoir.
Alors Lamia, depuis plusieurs années, elle est dans la recherche universitaire. Elle a fait un master d'histoire contemporaine. Elle a fait un master en sciences politiques à Aix-en-Provence. Elle est actuellement en thèse doctorante à Bruxelles sur l'enseignement des conflits en milieu scolaire. Au cours de ses recherches pour le master en sciences politiques, elle s'est particulièrement intéressée à la fabrique scolaire de l'histoire en général, sur les enjeux politiques de la construction des savoirs scolaires, c'est-à-dire la façon dont l'histoire de certains conflits est enseignée. Et donc, au cours de ce travail, elle en est venue à s'intéresser aux écoles mixtes israélo-palestiniennes, les écoles bilingues israéliennes. Donc, c'est de ce sujet-là dont elle va nous parler ce soir. Alors, la première question que je vais poser à Lamia, est-ce que tu peux nous présenter ces écoles dans le système éducatif et le système éducatif en général, en le replaçant dans le contexte de l'Israël ?
Merci beaucoup Juliette pour cette invitation et merci à Radio Galère de nous accueillir aujourd'hui. Alors effectivement, avant de rentrer dans le cœur du sujet, une mise en contexte un peu de qu'est-ce que sont ces écoles dites bilingues pour la paix qu'on a qualifiées de diverses manières. Donc ces écoles, elles sont extrêmement minoritaires d'abord en Israël. Il s'agit vraiment que de quelques antennes, 8 en tout. Et donc pour les saisir, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le système scolaire israélien, pour savoir un peu en quoi elles sont à contre-courant et qu'est-ce qu'elles représentent au sein de la société israélienne. Donc le système d'éducation, c'est un système qui est séparé entre les juifs israéliens et les palestiniens d'Israël, c'est-à-dire les palestiniens qui sont dits de l'intérieur, donc qui sont restés dans le territoire qui est devenu l'État d'Israël en 1948. Donc les palestiniens d'Israël qui sont différents des palestiniens des territoires ou encore de Gaza. Là, vraiment, je vais parler que de ces écoles dans le cadre de la société israélienne et de cette minorité palestinienne qui vit dans ce qui est devenu et ce qui est aujourd'hui l'État sioniste d'Israël. Donc c'est le système scolaire, il est séparé, donc je le disais, entre les juifs israéliens d'un côté et les palestiniens de l'autre. Le système public est fréquenté majoritairement par les laïcs. Donc le système est divisé entre à la fois les écoles publiques, majoritairement laïques, et les écoles religieuse, l'éducation religieuse est davantage prégnante. Et dans ce cas de figure, ça peut être des écoles soit privées, soit publiques. Mais en tout cas, le système arabo-palestinien, donc celui réservé à l'enseignement pour les Palestiniens d'Israël, est considéré comme un organe séparé et subordonné au sein du système éducatif public. Donc pour plein de raisons, beaucoup de recherches ont montré à quel point la disparité en termes d'installation matérielle, matériel, de qualification des enseignants, du niveau des services spéciaux, montre que on est, bon, certains chercheurs parlent de ségrégation, puisqu'on est quand même dans un système où, que l'on soit palestinien ou juif israélien, eh bien, l'accès à l'éducation n'est absolument pas le même. Donc, c'est pour ces raisons que, finalement, les uns et les autres, les juifs et les palestiniens, en Israël, ne se rendent compte qu'à l'université et pas avant. Donc, on est vraiment dans des systèmes complètement distincts, à la fois une ségrégation spatiale, hein, de certains villages palestiniens en Israël et, effectivement, donc une ségrégation spatiale qui va de pair avec une ségrégation scolaire et un accès très, très différent en termes de ressources à l'éducation. Alors, moi, je me suis intéressée donc, à cette minorité d'écoles qui propose à la fois donc d'enseigner à des Israéliens, des Juifs israéliens et des Palestiniens. Alors il faut savoir que dans les années 2000, il y a eu tout un système d'éducation alternative spécifiquement arabo-palestinien, c'est-à-dire que mis en place par des Palestiniens qui revendiquaient en fait la possibilité de pouvoir à la fois avoir des ressources plus importantes pour avoir des systèmes scolaires qui permettent d'enseigner dans de meilleures conditions et aussi qui puissent, et bien sûr, parler de l'identité palestinienne, de la Nakba, hein, la Nakba, c'est-à-dire 1948, hein, qui est pour les Juifs israéliens la création de l'État d'Israël, donc synonyme de joie, de quelque chose, d'une victoire, de l'enfant, voilà, de la création attendue d'un État par les sionistes. De l'autre part, eh bien, la catastrophe palestinienne, hein, celle qui a évacué, qui a... oui, elle est qualifiée de catastrophe puisque c'était donc plus de 750 000. Bon, les chiffres ne sont pas... mais en tout cas, c'est entre 750 000 et 800 000 Palestiniens qui deviennent des réfugiés, qui ont été chassés de leur terre dans les conditions qu'on connaît, voilà, qui ont été documentées depuis, hein, d'un nettoyage ethnique pour reprendre voilà, le travail historiographique d'Ilan Pappé et bien d'autres. Donc, 1948, cette histoire palestinienne, évidemment, elle est absente du récit israélien officiel, mais aussi elle est strictement interdite en Israël pour les Palestiniens dans ces écoles-là de mentionner, d'avoir des discours trop politiques, trop nationalistes, ou en tout cas d'entretenir une identité palestinienne qui passe toujours, bien sûr, par la commémoration, la mémoire de cet événement qui est devenu l'événement matrice, hein, pour reprendre le terme de Jehan Sfer, qui a travaillé sur l'historiographie palestinienne. Qui devient voilà, le moment important qui façonne l'identité palestinienne. Donc dans ces écoles-là, ces écoles alternatives qui émergent dans les années 2000, qui sont vraiment portées par des Palestiniens d'Israël, elles restent tout à fait... elles enregistrent un succès assez faible, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de ressources. C'est très compliqué voilà, en tant que Palestinien en Israël de pouvoir proposer une alternative. À l'inverse, ces écoles mixtes israélo-palestiniennes, parce qu'elles sont portées par des Israéliens qui ont toujours ce privilège de pouvoir revendiquer une forme de radicalité ou en tout cas de proposition d'éducation mixte, eh bien là, on est quand même sur effectivement une échelle plus importante. Alors, ça reste toujours minoritaire, mais oui. C'est quand même... des écoles qui ont pu émerger, qui ont pu s'institutionnaliser, qui ont pu aujourd'hui recevoir des fonds du ministère de l'Éducation nationale, qui sont voilà, totalement officielles, totalement reconnues et parfois, et souvent même, dans le cas de ces huit antennes, financées. Donc moi, mon enquête, elle s'est vraiment... focalisé sur ces écoles-là, en spécifiquement deux écoles, donc celle de Neve Shalom Wahed Salem, qui est donc qui porte le nom du village, d'un village mixte, hein, le premier et l'unique village mixte, en tout cas de cette ampleur-là, de Neve Shalom Wahed Salem, donc, et puis Yad Beyad, donc un réseau d'écoles. Donc à la base, c'est vraiment l'école du village, c'est une école qui émerge de ce village-là dans les années 80. Et puis, le modèle de Yad Vashem s'inspire de ce modèle de Neve Shalom pour ensuite en faire un réseau plus important entre 1998 et 2015. Hein, c'est donc un Palestinien, Amin Khalaf, et un Israélien, Ali Gordon, qui vont créer ce réseau Yad Vashem et un réseau d'écoles qui aujourd'hui est implanté donc, à Jérusalem, Haïfa, Wadi Ara, Kfar Saba, Jaffa et en Galilée. Donc moi, mon enquête ethnographique, c'était vraiment l'idée, c'était d'aller dans ces écoles et de voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que l'enseignement est mis en place, comment les Israéliens et les Palestiniens investissent ces espaces avec des trajectoires et des positions de pouvoir. Hein. C'est-à-dire qu'en tant qu'Israélien et Palestinien, on n'investit pas et on n'a pas la même possibilité, en tout cas, d'investir ces espaces de la même manière. Donc moi, mon objectif, c'était vraiment de me rendre dans ces deux écoles, à Neve Shalom Wahed Salem et à Yad Beyad, l'antenne de Jérusalem, qui est la seule à proposer un cursus allant vraiment de la maternelle jusqu'au lycée. Donc c'est la plus grande école du réseau Yad Beyad qui centralise aussi beaucoup de ces programmes à Jérusalem. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'antenne de Jérusalem, qui est très représentative et la plus importante donc pour observer un petit peu le fonctionnement. Et donc voilà, mon enquête s'est passée dans ces deux établissements particuliers.
Alors, moi qui ai lu le mémoire qui est issu de tout ce travail et de toute cette enquête, j'ai beaucoup aimé, j'ai dit à Lamia que j'ai beaucoup aimé lire son mémoire parce qu'il y a énormément de témoignages d'enseignants et des deux créateurs aussi du réseau Yad Beyad. Et donc, tu peux nous résumer très rapidement, si tu veux bien, le modèle de cette communauté de village et comment l'école en est venue, enfin, quelle est l'origine en fait, de cette école. Et après, le réseau Yad Beyad nous parlait rapidement des deux fondateurs, voilà, rapidement, et après on en viendra à ton enquête proprement dite.
Oui, bien sûr. Alors effectivement, dans mémoire, il y a toute une partie qui reposait sur vraiment la socio-genèse, la socio-histoire de cette première structure bilingue, d'éducation bilingue en Israël, donc celle du village de Neve Shalom, et ensuite, comment est-ce qu'on passe d'une toute petite école de village à un réseau quand même plus important, même s'il reste à l'échelle d'Israël petit, mais qui reste quand même important. Alors, brièvement, en fait, le village de Neve Shalom, à la base, c'est un village qui a été créé dans les années 70 par un prêtre, donc d'origine juive, converti au christianisme, qui a grandi au Caire, donc avec une trajectoire assez particulière, qui a vécu l'antisémitisme en France et qui ensuite est envoyé par la France en Israël pour créer des liens entre les chrétiens et les juifs, un centre judéo-chrétien à Jérusalem. Donc on est au départ dans un projet religieux, politique, de ce prêtre et de sa trajectoire personnelle qui le mène à Jérusalem à ce moment-là. Et donc au départ, en tout cas, c'est vraiment l'idée... Il y a presque une envie utopique de créer une communauté religieuse, mais d'un prêtre qui est foncièrement sioniste, qui a un engagement politique qui est celui du soutien à l'État d'Israël, qui est initialement dans la volonté de créer des liens entre juifs et chrétiens. La dimension musulmane et palestinienne n'apparaît pas du tout dans le projet théorique tel qu'il est pensé initialement. Et c'est véritablement dans les années 70, au début des années 70, quand le village, la création du village et qu'il y a les premières familles qui arrivent, donc l'objectif de ce village...
Des familles palestiniennes qui arrivent.
C'est-à-dire qu'au départ, il y a la volonté de créer... C'est très théorique, très messianique. Ouais. On veut que ça soit la retranscription d'une volonté divine sur Terre, que l'ensemble des peuples vivent en paix, qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça donne la création de ce village-là, où on n'avait pas anticipé l'enjeu politique, et où on était tellement dans cette dynamique sioniste aussi, hein, parce que c'est le travail de la terre. C'était l'origine du projet, c'était un peu une alliance entre les kibbutz et une vie religieuse. Donc on est vraiment dans ce projet initial-là, qui ensuite, quand il y a une volonté manifeste d'intégrer aussi des familles palestiniennes, puisqu'on ne peut pas penser cette communauté fraternelle sans une partie entière de la population. Donc, ce premier village accueille les premières familles palestiniennes. Et c'est là qu'on se rend compte que des tensions et de ce qui est réellement l'état de la société, de la colonisation, de la violence. Et donc c'est parce que ces familles palestiniennes arrivent et racontent leur histoire et voilà, et qu'il y a un espèce de, aussi en fonction du contexte, qu'il y a un espèce de renversement du pouvoir à partir de la première intifada, hein, où les Palestiniens d'Israël commencent aussi à avoir une énorme solidarité avec les Palestiniens de Cisjordanie et des territoires occupés. Et donc, il y a une identité palestinienne comme ça qui, à ce moment-là, se joue. Et donc, il y a vraiment un discours politique qui est celui de... Mais en fait, parler de paix dans ce contexte-là, en étant sioniste et avec ce background, c'est clairement être du côté de l'oppresseur. Et donc, il y a cette dimension qui entre en jeu à partir de ce moment-là. Et donc, la question de l'éducation apparaît comme une manière d'éduquer à la paix. Donc, c'est-à-dire que c'est une ONG d'abord, l'ONG, donc l'école pour la paix, qui ensuite crée cette première école en 84 au sein du village. Et là, vraiment, l'idée, c'est, eh bien, on va faire en sorte que, à la base, c'est pour les habitants du village. Hein, ça n'a pas du tout vocation à être élargi ou quoi. En tout cas au départ, mais c'est bon, on est dans un village, ok, on vit avec des Palestiniens et des Juifs israéliens, il nous faut une école, dans cette école on veut que nos enfants puissent apprendre ensemble, donc créons une école. Donc c'est vraiment très expérimental, les premiers enseignants ne sont pas des enseignants, ils vont être formés, c'est de créer leurs outils, donc voilà, il y a eu toute cette première partie, et ensuite, dans les années 90, Amin Khalaf et Lee Gordon donc passe par cette école-là. Amin Khalaf, lui, est palestinien, il est installé à Jérusalem et il a tout, enfin voilà, la question de l'apartheid, des discriminations à l'égard des Palestiniens d'Israël considérés comme des citoyens de seconde zone, de l'injustice, de la colonisation, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour lui. Et en tant que citoyen donc palestinien citoyen d'Israël, puisqu'ils ont un statut particulier en tant que Palestiniens qui vivent à Jérusalem, eh bien il s'est rendu compte très vite que son fils finalement il fallait choisir comme tous les Palestiniens de Jérusalem, c'est-à-dire soit on choisit le système juif israélien où il n'y a pas du tout la possibilité d'apprendre l'arabe ni l'histoire palestinienne, hein. Soit le côté de Jérusalem Est où les programmes sont encore jordaniens et où donc pas de possibilité d'apprendre l'hébreu. Donc pour les Palestiniens qui vivent en Israël, c'est quand même un dilemme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voilà, c'est soit on fait des stratégies scolaires pour que nos enfants puissent un minimum s'en sortir dans cette société, apprendre l'hébreu et avoir des outils pour s'en sortir. Et auquel cas, bah, c'est abandonner une partie de son identité, de son histoire, et voilà.
Effacer la mémoire palestinienne, voilà, complètement.
Complètement. Ouais. Et soit, à l'inverse, et ben c'est les envoyer dans des écoles où ils ne pourront pas apprendre l'hébreu, et que faire en tant que citoyen d'Israël sans avoir la langue. Voilà. Donc lui, voilà, c'était pour des aspirations très... à la fois politique et pragmatique pour ses enfants. Et puis Lee Gordon, lui, c'est une toute autre trajectoire. C'est un Américain qui a fait son alia en Israël, qui est animé de plein de bonnes volontés, de créer la paix, mais sans savoir exactement ce qu'est la réalité du terrain. Et donc, qui est passé aussi par Neve Shalom, parce que attiré par tous ces mouvements. Et puis aussi, on est dans les années 90, il y a le processus, donc entrer dans le processus de paix, donc c'est aussi toute une nouvelle dynamique où on y croit quelque part, et donc ces écoles elles prennent de l'ampleur à ce moment-là, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui parce que la situation est complètement différente et le contexte depuis la seconde intifada est celui de l'augmentation des violences, de la colonisation et de la marginalisation de ces petits de ces processus de paix, mais à ce moment-là il faut se remettre dans le contexte où on y croit et où du coup les écoles pour la paix apparaissent comme un moyen justement de éventuellement un premier pas vers ce qui pourrait être une paix entre Israéliens et Palestiniens. Et donc c'est deux trajectoires très différentes, hein, avec une prise sur la réalité qui est quand même le fruit de personnages très très différents qui arrivent à ce moment-là à convenir de travailler ensemble pour créer, pour prolonger l'expérience de Neve Shalom, qui était quand même une toute petite école dans un village ou en haut d'une colline. Il faut s'imaginer, Neve Shalom, c'est vraiment... Moi, j'y ai passé du temps pour y accéder. C'est vraiment perché.
D'accord.
Donc voilà, c'était vraiment à l'écart.
Au bout du chemin, oui.
Voilà. Ouais. Donc c'était l'idée, leur idée, c'était de prolonger cette expérience et de l'élargir à des écoles à Jérusalem, dans les villes, à Tel Aviv, Jaffa en l'occurrence. Voilà. Donc c'était ça initialement le projet de ces écoles.
Très bien. Alors, on va peut-être faire une petite pause musicale. Alors, on va écouter en fait une chanson qui s'intitule « Les six lions de Jénine », qui est chantée par une chanteuse qui s'appelle Jarifa Energy. Alors, je vous raconte l'histoire de cette chanson. Il y a plus d'un an, six Palestiniens ont réussi l'impensable, c'est-à-dire s'évader de la prison israélienne de Gilboa. Alors, aux yeux des Palestiniens, évidemment, c'était une victoire. Ces six Palestiniens, je vais les citer, ça vaut la peine de dire leur nom, bien que je n'ai pas un accent extraordinaire, mais bon, c'est Mahmoud Al-Arda, c'est ça, Mohamed Al-Arda, Youssef Katri, Eyam Kamanji, Mounadil Nafat et Zakaria Zoubaidi. Donc ces six Palestiniens qui ont réussi à s'évader sont devenus des symboles nationaux de la résistance à l'occupation israélienne. Et l'oncle d'un des évadés a dit « La première heure après l'annonce de l'évasion, nous étions remplis d'espoir. Nous nous disions oh, « S'il n'a pas été encore arrêté, il restera peut-être libre à jamais. » Bon, malheureusement, ils ont été repris assez rapidement. Mais malgré tout, cette évasion demeure une victoire pour les Palestiniens. Et donc, en hommage à ces hommes courageux qui ont osé résister à l'occupation israélienne, Jarifa Energy leur a dédié un poème qui s'intitule « Les six lions de Jénine » et la musique est de Loé Balaavi. Nous l'écoutons.
A date we'll never forget. Six Palestinian lions from Gilboa Israeli prison, they escaped. Dug a tunnel in their cell using rusty spoons. Mahmoud Al-Arida, the mastermind, we salute you. Humiliating Israelis, mocking their security. IOF said, apparently, no prisoner could escape. High security. Jenin, six lions, laughed at this myth. The guard meant to be on watch was watching TV. Zakaria Zubaidi, the Huey Newton Black Panther of Jenin. Al-Aqsa Brigades, the co-founder of the Freedom Theatre. How Giuliano Maracamisa's heart swelled in pride from his grave. Many times it attempted to assassinate Zakaria, like his grandfather, who'd also broke out of an Israeli prison. May angels and your mother's blessings surround you. May your mother assassinated in the Second Intifada. May she and your brothers rest in peace. May you be protected from Israelis beating you in prison. Legends Muhammad Al-Arida, Yaakov Kadri, Muhammad Arda, Munathir Nathaya, Aham Kahamji, Zakaria Zubaidi. The last two Palestinian men, Israelis couldn't find for 2 weeks. They sent out the army, heavy surveillance. Six lions, I pray, you witness the most stunning sunrises and sunsets. I pray, watermelon quenched your thirst. I pray, the pomegranates and olives you tasted were straight from Jannah. May freedom come to greet you. May you one day get to swim in the sea. When we heard the news, we celebrated. Gaza gave out halwaya. Protesters threw down spoons outside Israeli embassies. Mothers rejoiced. Jenin's resistance came out to defend. From Beitar, Nablus to Haifa, you all restored hope. In Palestinian diaspora, friends of Palestine celebrated. You put the prison break fictional series to shame. Palestinians in Israeli prisons bang their cell doors. Israelis shook and afraid. Palestinian resilience in their motherland. Colonizers can't break. If Palestinians can break out of Israeli prisons, we believe wholeheartedly, like Algeria, Palestine will be free.
Merci pour ce joli poème. Alors, nous allons maintenant rentrer dans l'enquête. Lamia, tu vas nous expliquer tes objectifs et puis ton expérience sur le terrain.
Oui, merci Juliette. Alors en effet, ce que j'évoquais en parlant de la trajectoire de ces deux fondateurs, c'est qu'initialement, on a quand même des projets au niveau même institutionnel qui sont investis par des individus aux objectifs très différents. C'est-à-dire que là, d'un côté, on a un Palestinien dont c'est la vie qui et l'engagement qui parle. Et de l'autre côté, c'est un Américain qui a pris ensuite la nationalité israélienne, qui n'a jamais vécu sur place et qui voilà, est animé par aussi ce contexte qui est celui des années 90. Donc, pour moi, dans ma recherche, c'était important, l'objectif de ma recherche et ce qui était ma problématique centrale, c'était de voir comment ces espaces sont investis et traduisent finalement une multiplicité de projets qui sont pris par des individus voilà, aux trajectoires et aux sensibilités différentes, et donc de voir comment institutionnellement parlant et au niveau des acteurs, donc des individualités qui composent cette institution, il y a des enjeux qui se jouent, des enjeux donc de la manière dont on arrive dans ces écoles, qu'est-ce qu'on vient y faire, quels sont les privilèges des Israéliens qui font qu'ils n'investissent pas ces écoles de la même manière, comment l'organisation en interne aussi est à l'image de la société israélienne, c'est-à-dire d'un rapport de force. Et donc pour moi, voilà, l'objectif de cette recherche, c'était surtout de faire une ethnographie, donc d'essayer de comprendre comment ces écoles fonctionnent. Qu'est-ce qu'elles disent des possibles, en fait, des espaces qui se disent alternatifs en Israël, des espaces à contre-courant, contre-hégémoniques. Comment est-ce que, même dans ces espaces considérés par beaucoup comme radicaux, quelle est la réalité ? Donc, ce que j'ai fait, moi, dans une approche sociologie, c'était à la fois l'observation participante, c'était des entretiens avec les fondateurs dont je viens de vous en parler, qui montraient justement que les projets sont définis de façon très différente en fonction de chacun, que ça soit même à Neve Shalom, comment on est passé d'un projet religieux sioniste, porté par des sionistes, à un projet qui a été investi par la suite par des Palestiniens et qui, dans un contexte particulier, est devenu ce que c'est devenu. Et à Yad Beyad, de ces deux personnes qui, finalement, n'arrivent pas du tout avec les mêmes objectifs. Et donc, moi, dans cette enquête, donc les entretiens avec les enseignants, moi, j'ai passé énormément de temps avec les enseignants à Neve Shalom Ohad Salem et à Yad Beyad pour essayer de comprendre comment, au niveau des acteurs qui composent l'institution, on est aussi dans des histoires, dans des trajectoires, dans des sensibilités et dans des façons d'investir ces écoles qui sont assez significatives. Donc, ce qui ressortait finalement de ces entretiens, c'est qu'on a d'un côté des enseignants palestiniens qui investissent ces écoles comme étant les seules finalement qui leur permettent de parler de la Nakba, d'enseigner l'arabe, d'enseigner la mémoire palestinienne et d'échapper quelque part au conflit de loyauté, puisque les enseignants palestiniens d'Israël qui enseignent dans des systèmes classiques, C'est très difficile pour eux. Donc dans les écoles arabo-palestiniennes, ils ont d'un côté la pression de l'État, des supérieurs, du ministère de l'Éducation nationale, où ils n'ont pas le droit de parler de tout ça. Et de l'autre côté, des élèves qui sont en attente qu'on leur dise quelle est la réalité de la société dans laquelle ils vivent, de l'histoire de ce pays. Et donc, c'est très difficile pour eux. Donc, il y a beaucoup de Palestiniens pour qui ces écoles sont vécues comme des moyens d'échapper un peu à ce conflit de loyauté et de pouvoir, mine de rien, autant que possible entretenir cette histoire et aussi avoir des stratégies d'empowerment, c'est-à-dire de parler de politique avec ses élèves, parce qu'ils en ont, ils sont en attente, et c'est aussi comme ça que pour certains enseignants palestiniens, on pouvait agir. Donc c'était une façon d'agir et de pouvoir transmettre en tout cas tout ça. Donc pour ces enseignants-là, je voulais citer quelques extraits, puisque je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant.
Oui, très volontiers, très volontiers.
Que d'écouter leur voix. Hein. Donc je reviendrai après aux enseignants israéliens. Donc là, je vais vous citer un extrait d'un entretien que j'ai fait avec une enseignante palestinienne qui enseigne l'histoire, donc à Yad Beyad, depuis 2009. Et donc, elle me dit « Dans cette école, les élèves grandissent en apprenant à mieux connaître leur histoire. Et aucune autre école palestinienne ne peut donner cette dimension aux élèves palestiniens. Quand j'étais petite, chaque année pour le jour de la Nakba, nous étions en vacances. Mais je n'ai jamais compris pourquoi nous n'en avions jamais parlé à l'école. Nous n'avons jamais eu aucun cours là-dessus. Nous n'étions même pas autorisés à savoir. Le ministère de l'Éducation aurait fait des problèmes à notre école si nous avions parlé de la Nakba ou eu un discours trop nationaliste. J'ai dû attendre l'université pour comprendre tout ça. Dans ce type d'école, à mon sens, le plus important, ce sont les cours d'histoire et la façon dont on les mène. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'enseigner à des Palestiniens leur propre histoire pour qu'ils comprennent les termes du conflit ici, ce qui se passe autour d'eux. Je ne voulais pas passer à côté de cette opportunité. La priorité, c'était que mon fils, donc son fils est aussi scolarisé dans cette école, que mon fils ne rencontre pas les mêmes obstacles que moi. Depuis qu'il est à Yad Beyad, il connaît l'histoire de la Palestine et de la Nakba, plus que les autres enfants palestiniens du village. Ma mission ici, c'est aussi de faire connaître notre histoire aux Juifs. Peut-être que si on arrive à se faire entendre par des enfants, ils grandiront différemment. » Ou encore un autre enseignant, qui est lui enseignant d'arabe à Yad Beyad, je le cite, « Être enseignant, pour moi, c'est transmettre un message aux élèves de mon pays. Enfin, pour ma communauté, puisque ce n'est pas mon pays et je ne pense pas être intégré à ce pays en tant que Palestinien. Le côté positif, c'est que j'incite les élèves à s'ouvrir, à parler des tabous, à apprendre à aimer l'arabe. La majorité des élèves palestiniens parlent très bien hébreu, mais en classe d'arabe, certains ont vraiment du mal à s'exprimer en arabe classique. Mon message, ma mission, c'est de les mettre plus à l'aise avec leur langue maternelle, leur montrer que leur culture est riche, que la civilisation arabe a une grande histoire et de les rendre fiers de ce qu'ils sont. » Donc, il y a plusieurs témoignages qui allaient dans ce sens, hein, vraiment, avec les enseignants palestiniens. On est vraiment dans la dimension d'un engagement au sein de l'éducation qui est vécu comme une manière de résister. Et d'autres enseignants, toujours dans le prolongement de cette approche-là, qui aussi, pour eux-mêmes, je me souviens de certains enseignants palestiniens qui me disaient « Pour moi-même, c'est un espace où je me sens mieux et où j'ai appris ». De mon histoire, parce que c'est possible.
Donc, quand on sait l'importance qu'a l'éducation pour le peuple palestinien, hein, c'est pour ce peuple un moyen de s'émanciper, de comprendre les choses. C'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est un peuple qui est extrêmement cultivé et très, très scolarisé, une grande, grande proportion. Oui.
Complètement. Et alors, du côté des enseignants juifs israéliens, dans ces écoles, finalement, on retrouve un peu la distinction classique de l'extrême gauche, de la gauche et de l'extrême gauche israélienne, c'est-à-dire à la fois la gauche sioniste, l'extrême gauche radicale, qui est une extrême minorité d'une extrême minorité, mais donc à l'image hein, de ce que représente de cette division entre, en tout cas, ceux qui se revendiquent sionistes et ceux qui décident de s'extraire, la gauche radicale, voilà, de se considérer comme anti-sioniste. Donc il y a les deux, en fait, dans cette école qui cohabitent. Et beaucoup d'enseignants me disaient aussi en entretien que c'était pour eux une façon de s'extraire d'un système qui considérait trop raciste et nationaliste. Et ça venait même des enseignants qui se considéraient comme sionistes. C'est-à-dire que, bon, je vais vous citer aussi un extrait, puisque, encore une fois, je trouve que c'est parlant. Donc, c'est un extrait d'un entretien que j'ai eu avec un enseignant israélien qui a été recruté donc, à Yad Beyad en 2016, qui, lui, se dit sioniste de gauche, qui est engagé dans l'armée et qui le fait savoir et qui est tout à fait au clair avec ça, qu'il ne le cache pas. Et donc, il me dit la chose suivante quand je l'interroge sur pourquoi il a choisi Yad Beyad. Il me répond en ce sens. Avant, j'étais dans une école israélienne classique. J'ai enseigné l'histoire du conflit israélo-palestinien dans le contexte de ce qu'on a appelé l'intifada des couteaux à Jérusalem. Certains de mes étudiants écrivaient « mort aux Arabes » sur les tables. Il y avait aussi des « morts aux homosexuels » et des « morts aux gauchistes ». Et moi, je me suis retrouvée à devoir leur enseigner l'Holocauste et l'idéologie nazie. Je leur ai toujours dit que le nazisme s'était nourri de ce type de haine. Une fois, pendant la récréation, j'ai vu des élèves écrire des « morts aux Arabes » sur les tables. Je leur ai alors demandé comment ils pouvaient écrire des choses pareilles après un cours sur le nazisme. En plus, des Arabes travaillent dans le service d'entretien de cette école. Ils m'ont répondu que je disais ça parce que j'étais gauchiste. Entendre que les élèves ne voulaient pas m'écouter parce qu'ils me considéraient comme un gauchiste, ça a vraiment été très difficile pour moi. C'est-à-dire que là, on est vraiment, et je trouve que c'est assez pour se représenter ce qu'est la société israélienne, parce que je pense que c'est assez difficile de l'extérieur de s'imaginer le niveau, en fait, le niveau de la propagande, du nationalisme, exactement. Ouais. Donc là, c'est quelqu'un qui est à l'armée, qui fait l'armée, qui se dit sioniste, et qui, parce que, effectivement, de gauche ou plutôt voilà, qui a plutôt ces sensibilités là et est considéré comme un gauchiste et donc comme quelqu'un de radical carrément hein, quasiment donc ces expériences répétées du racisme à l'école ont fait que pour beaucoup de juifs israéliens qui soient sionistes de gauche ou antisionistes, ces écoles deviennent des alternatives. Et donc là, je cite une autre enseignante donc de Yad Beyad qui a été recrutée elle, en 2014 et qui a décidé d'y scolariser sa fille également. Alors, et pareil, à la même question, elle me répond « Quand je suis devenue enseignante, j'ai exercé dans plusieurs écoles israéliennes et j'ai toujours senti que je devais cacher mes opinions politiques. Avant de venir ici, j'ai enseigné dans une école où je me suis sentie physiquement en danger. J'avais des élèves de l'extrême droite. Certains se réclamaient du rabbin Meir Kahane qui était pour le transfert de tous les Arabes. Certains apportaient des stickers à son effigie en classe. À un moment, j'ai réalisé que pour tout mon entourage et ma culture, était remplie de réflexions racistes. Je me suis dit que la seule manière d'être sûre que ma fille n'absorbe pas toute cette haine, c'était qu'elle grandisse avec les Arabes. Donc là aussi, on a plus qu'un investissement dans une pratique, dans un métier. C'est aussi rejoindre une communauté. Elle y scolarise sa fille. Elle rejoint. Donc c'est comme ça que sont appelées la communauté Neve Shalom et la communauté Yad Beyad. C'est-à-dire que c'est vraiment vécu comme des espaces refuges. Pour certains donc juifs israéliens qui sont pas d'accord avec avec la façon dont la violence d'une société se manifeste au quotidien à l'égard là via l'éducation et dans les écoles donc c'est perçu comme eux pour c'est perçu comme un moyen d'échapper à ce système là. Et encore pour d'autres enseignants, mais là qui étaient vraiment une extrême minorité, qui eux vraiment sont dans les milieux d'extrême gauche israélienne. Là pour eux c'est vraiment la possibilité, ça s'inscrit dans un engagement politique. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré pas mal d'enseignants avec qui on allait tous les vendredis à Sheikh Jarrah, parce que pendant mon enquête c'était les moments où à Sheikh Jarrah il y avait les expulsions. Et donc tous les vendredis ils allaient rejoindre les manifestations de Sheikh Jarrah. Donc c'est vraiment deux enseignants dans tout l'établissement, mais ils sont là, c'est-à-dire que pour eux c'est aussi une façon de ça s'inscrit dans une performance plus globale, c'est-à-dire un engagement militant, l'engagement dans la pratique d'un enseignement alternatif. Et donc voilà, donc moi mon mémoire, c'était l'objectif, c'était vraiment de retranscrire un peu la complexité de ces espaces, de voir comment à la fois le projet institutionnel mais aussi la manière dont il est réapproprié et pratiqué par les enseignants montre que malgré effectivement la volonté, enfin qu'il y ait déjà ça montre qu'il y a une diversité de façons d'investir ces espaces en fonction de ces sensibilités, pas que lié au fait qu'on soit palestinien ou juif israélien, mais aussi il y en a certains qui viennent plus parce que c'est l'enseignement petits effectifs qui le recherchent, donc l'alternative plutôt pédagogique. Il y a énormément de choses qui fait que ces écoles, elles sont assez malléables et assez, finalement, on définit jamais vraiment le projet de cette école, si ce n'est appelé à la paix, mais enfin, voilà, ça peut être interprété de manière très très différente. Et justement, la façon dont tous ces acteurs l'investissent montre que on est finalement dans des projets qui sont flous, abstraits, et qui sont réinvestis par des acteurs avec des objectifs et des façons de pratiquer leur métier qui sont très différents les uns des autres. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que ça s'inscrit dans un contexte particulier, et que structurellement, on est quand même, et ça, ça fait partie de mes conclusions, on est dans des écoles qui se disent donc alternatives, c'est-à-dire proposer une autre façon de faire et d'enseigner, mais qui reproduit quelque part aussi l'essentialisation des identités, c'est-à-dire que dans ces écoles, il y a les Palestiniens et les Juifs israéliens d'un côté, et on va mettre côte à côte le récit officiel israélien, hégémonique, et la mémoire de la Nakba. Donc finalement, c'est un statu quo. Voilà, on s'accorde sur, on met les gens ensemble, on essaye d'organiser une forme de rencontre, mais qui n'en est pas vraiment une, parce que c'est de se dire, finalement, dans ces espaces-là, voilà, on écoute l'autre, mais sans à aucun moment définir, essayer déjà de s'extraire de cette essentialisation ou de proposer d'aller plus loin. Donc ça, c'est pas quelque chose qui c'est pas des discussions qui ont lieu. Et aussi, on reste dans des écoles qui sont dirigées par des Israéliens. C'est-à-dire que ce sont des écoles qui se présentent comme israélo-palestiniennes, mais dans les faits, c'est des projets qui sont portés par des Israéliens, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont la possibilité d'exister, et qui accueillent dans de meilleures conditions qu'ailleurs des Palestiniens. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez fort, et c'est quelque chose qui se manifeste dans la façon dont justement ces deux fondateurs, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Amin et Lee, donc Amin Khalaf et Lee Gordon. Lee Gordon, lui, aujourd'hui, il est retourné aux États-Unis, il fait le fundraising de ses établissements, c'est-à-dire qu'il récolte de l'argent pour ses écoles. Lors d'un entretien plus récent avec lui, il me disait que oui, il récoltait de l'argent souvent donc des lobbies en fait juifs américains,
notamment de l'EPAC.
Exactement.
J'ai vu, voilà.
Ouais. De l'EPAC, et qui disait c'est le prix à payer finalement. Mmh. Voilà. Mmh. Ces écoles sont instrumentalisées par des politiques pour redorer le blason d'un État colonial, d'apartheid, voilà. Pour lui, ça ne pose pas de problème. Il fait son travail. Il récolte de l'argent, il l'envoie à ses écoles, et voilà, c'est une initiative. Voilà. De l'autre côté, Amin Khalaf, il a quitté ses écoles définitivement, et j'aimerais bien le citer parce que je trouve que ce qu'il a...
Absolument, puis après on fera une petite pause. Voilà. Voilà.
Ce qu'il me disait justement sur ses écoles et sur pourquoi il les a quittées, ce qu'il pense aujourd'hui de ses écoles est assez révélateur. Et donc... Donc il disait en gros que ces écoles l'avaient été... Voilà, j'ai retrouvé la citation. Donc il me disait « On a eu plusieurs conflits à l'intérieur de l'école entre Palestiniens et Juifs. La majorité n'était pas d'accord pour que ce soit un Palestinien au sommet de la pyramide. Le partenariat que j'ai fait pour créer cette école, c'était avant tout pour construire un espace pour établir une première étape vers une égalité entre Palestiniens et Israéliens en Israël. Mais si nous ne sommes pas assez forts dans ce partenariat, ça peut vite se transformer en ce qu'est devenue l'école aujourd'hui, une école juive qui accueille des Palestiniens dans de bonnes conditions et leur donne du respect. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu créer. La question centrale, selon moi, c'est de savoir à qui sert aujourd'hui l'école. Finalement, elle est bonne pour les Israéliens. Et moi, je ne veux pas que les Israéliens apprennent l'arabe et que l'école les prépare à des postes dans l'armée. Ce n'est pas mon but. C'est une tragédie pour moi. Et je ne veux pas préparer les Palestiniens à se sentir inférieurs aux Israéliens. Ce n'est pas mon but. Ou encore, former des Palestiniens qui iront à l'université, réussiront et auront beaucoup d'argent. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'était d'établir un endroit où l'on comprendrait que nous devons être des partenaires avec les mêmes droits pour construire une société meilleure, ensemble. Je pense que c'est la première fois que je m'exprime de cette façon. De façon aussi critique sur Yad Beyad, mais c'est parce que je me rends compte aujourd'hui de plus en plus que l'idéologie est mise de côté, et c'est très grave et mauvais pour les Arabes. Et donc là, il fait référence à l'institutionnalisation, puisque pour Lee Gordon, l'objectif, c'était d'avoir des fonds du ministère de l'Éducation nationale, quand pour Amin, c'était vraiment d'essayer d'avoir une vraie alternative.
Alors, merci Lamia pour ces témoignages qui sont extrêmement émouvants. On va faire une deuxième pause musicale. On va écouter une chanson d'une chanteuse qui s'appelle Jazia Satour, qui est née à Alger en 1980, mais qui est une auteure, compositrice, interprète, chanteuse et guitariste française. Elle vit en France depuis 1990. Et dans le cadre d'un projet d'éducation artistique et culturelle, elle s'est associée en fait à 120 jeunes du Forez qui sont issus de la chorale du collège Le Palais des Feurs et l'association musicale de Feurs. pour interpréter une chanson qui s'appelle Ida. La chanson Ida, qui a été interprétée le 14 mai 2022. Donc le 14 mai, c'est la commémoration de la Nakba, dont on parlait tout à l'heure. Cette chanson est dédiée aux Palestiniens qui s'opposent quotidiennement à la violence de l'occupation israélienne. Donc nous écoutons cette chanson de Jazia Satour. غابت المراعي والقطعان اللي كان ضار الأيام إذا حجبت الجدران إذا اختفت الوديان غابت المراعي والقطعان اللي كان حجبت الجدران تن إلى أرض كنت قريب وتصير في بلادك غريب تصير غريب في بلادك غريب تن إلى أرض كنت قريب وتصير في بلادك غريب في أرضك وبلادك في أرض وبلاد غريب Voilà. Alors nous allons maintenant, enfin Lamia nous a déjà pas mal parlé de ses conclusions, mais on va rentrer un peu plus profondément dans ses conclusions pour arriver à se poser la question et en tout cas essayer d'y répondre. Est-ce que ces performances, ces écoles-là peuvent être qualifiées de révolutionnaires? Je pense que tu nous as déjà plus ou moins laissé entendre, bien sûr que non. Et finalement, quel est leur avenir à ces écoles? Est-ce qu'elles peuvent apporter quelque chose au quotidien des Palestiniens en dehors d'un peu de confort pour les écoliers ou les étudiants dans l'école? Voilà, dis-nous tes conclusions.
Merci Juliette. Alors effectivement, les conclusions principales de ce travail, c'était de montrer que finalement, alors que ces écoles ont souvent été présentées, considérées comme des bulles de paix, on les appelait les bulles de paix en dehors du conflit, ou voilà, des initiatives, oui, quasiment révolutionnaires, ou en tout cas, ce n'est pas le cas. Enfin, c'est clair que ces espaces, ils sont structurés par le contexte qui est celui de la colonisation, des rapports de pouvoir, de domination qu'il existe entre citoyens juifs israéliens et palestiniens en Israël. Donc c'était de montrer qu'effectivement, déjà, c'est de remonter à l'origine de ces projets, en montrant que ça a toujours été des projets portés et qui ont pu exister parce que portées par des Israéliens et qui ensuite ont été investies par des Palestiniens qui ont essayé tant bien que mal de proposer une réelle répartition, en tout cas une réelle proposition. Ça n'a pas été écouté. Hein. C'est le cas d'Amin Khalafi qui est parti et de ces écoles qui ont été de plus en plus institutionnalisées et qui aujourd'hui n'ont vraiment rien de révolutionnaire. Hein. Ça ne veut pas dire que ce qui s'y passe n'est pas intéressant, que les propositions ne sont pas intéressantes, que ça permet effectivement à certains enseignants palestiniens de pouvoir enseigner. Et je l'ai vu à travers ces entretiens que c'était quelque chose de très fort pour eux. Donc il ne s'agit pas de dire « Ah, bon, elles ne servent à rien » ou voilà, mais de montrer la complexité de comment des espaces, effectivement, au quotidien, peuvent permettre à des élèves, à des enseignants, tant bien que mal et malgré tout, de pouvoir évoquer ces questions-là et sur un niveau très individuel et très micro, avoir quelques effets. Mais quand on replace ça dans le contexte général, on se rend bien compte qu'effectivement, elles sont instrumentalisées, elles ont souvent été considérées comme des initiatives de normalisation, hein, c'est-à-dire accepter la colonisation, accepter la situation telle qu'elle est, l'injustice, la colonisation, la violence, et de se dire, bon, de parler d'une paix, on ne sait pas de quelle réalité il s'agit, puisqu'aujourd'hui, le terme n'est pas défini dans ces écoles, on ne sait pas finalement qu'est-ce qui est fait. Enfin, aujourd'hui, parler de paix, c'est complètement... voilà, de ne pas parler de la réalité du terrain telle qu'elle est vécue quotidiennement, de la violence qui est celle de l'expulsion des Palestiniens, voilà, que ce soit à Sheikh Jarrah ou ailleurs, de l'offensive aussi qui est de plus en plus importante. Oui, c'est en fait des écoles qui ont été de plus en plus marginalisées pour ces raisons, parce que et qui parfois effectivement ont pu être accusées de ne pas prendre en considération la réalité du terrain et de continuer à faire comme dans les années 90, sauf qu'on n'y est plus du tout.
Parce que dans les témoignages en fait que tu as cités et ceux que j'ai lus dans ton mémoire, le terme de justice n'est jamais utilisé. Mmh. On parle de paix. Mmh. Une fois, on parle d'égalité. Jamais de justice. Complètement. En fait, dans ces écoles-là, on a... Voilà,
C'est ça aussi une des conclusions que j'essaie de faire. Ouais. C'est que finalement, malgré toutes les bonnes volontés qu'on peut entendre dans ces témoignages, que ça soit voilà, de ces Israéliens, mais finalement, il y a une volonté structurelle qui est celle de dépolitiser. Et effectivement, sans justice, pas de paix, et sans réelle considération de la situation telle qu'elle est, des rapports de force, de... Voilà, c'est pas possible de penser, et c'est même plus que pas possible, c'est prendre parti en fait, en prenant le parti de rendre abstrait un peu tout ce qui serait une définition claire de comment est-ce qu'on accéderait à cette paix. C'est un parti pris qui est celui de ces écoles, c'est-à-dire d'évacuer ces questions-là et de continuer à être considérés comme une initiative radicale. D'ailleurs, ils ont été attaqués par des attentats terroristes de l'extrême droite israélienne. Hein. Donc et c'est ça aussi, pour finir, c'est de voir comment ces écoles qui, comme on l'a vu, hein, n'ont rien de révolutionnaire, ne proposent pas de réelle alternative, mais se proposent juste de dire, bon, et si on essayait d'aller à l'école ensemble, c'est déjà considéré dans la société israélienne telle qu'elle est aujourd'hui, comme très, très radicale. Mmh. Et c'est pour ça que ces familles font un choix du côté israélien, souvent dans les entretiens que j'ai eus avec les familles, et pas compris. Et ces attentats le montrent aussi. C'est-à-dire qu'on en est encore en Israël aujourd'hui à penser que c'est totalement extrême et radical que de proposer ces initiatives-là.
Et si on veut être même un peu plus, encore plus cynique, si on peut aller dans le cynisme, en fait, on peut même dire que si elles sont autorisées par le système officiel, gouvernemental, elles servent de vitrine, en fait. Elles servent de vitrine du fait qu'elles sont aidées financièrement par énormément de donateurs étrangers. Ils se permettent de venir les visiter, les faire visiter. Oui. Et c'est une vitrine, vous voyez.
Voilà. Comme le pinkwashing. Comme,
exactement. On voit ça en même, voilà, exactement du même niveau que la Gay Pride à Tel Aviv, etc. Ça sert de vitrine, et ça sert dans la propagande. Voilà. Alors, eh bien, Lamia, merci beaucoup d'être venue. Merci pour ce travail, de toute façon, extrêmement intéressant. Et puis, merci à Sidi pour la technique. On va rendre l'antenne. On dit bonsoir à tout le monde et à la semaine prochaine pour une heure en Palestine. Shut up.